chers amis de Radio Grand Ciel, bonjour. Charles Jobert vous retrouve pour l'émission mensuelle Église ouverte, produite par l'association Église ouverte en Eure-et-Loire. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Jean-Pierre Mériot, qui est président de l'association Buxéenne Culture et Patrimoine. Alors la première question que je vais lui poser, bien entendu, c'est de nous définir ce terme un petit peu étrange de Buxéenne. D'où vient ce terme ?
Merci, bonjour à tous. Donc Buxéen, Boissy, a pour origine Buxus, terre à buis. D'où le qualificatif, après, pour les habitants, Buxéenne, Buxéen. Voilà.
Voilà, donc en fait, on sait grâce à vous que votre association est basée dans une commune d'Eure-et-Loire qui s'appelle Boissy-en-Drouais.
Voilà.
Bien. Alors, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs qui habitent le département d'Eure-et-Loire, nous localiser un petit peu cette localité de Boissy-en-Drouais ? En Drouais, me direz-vous déjà.
Oui. Eh bien, Boissy, lorsque vous quittez Dreux en direction de Nonancourt, vous avez un petit peu avant d'arriver à Saint-Rémy-sur-Avre, sur la gauche, vous avez quelques clochers là que vous apercevez à l'horizon. Il y a Louvilliers d'abord et en arrière-plan, Boissy. Voilà, nous sommes quelques communes du plateau ouest, comme on dit, dans l'agglo de Dreux.
C'est canton de Dreux, ça, je pense, au niveau administratif, hein, c'est ça. C'est entre, en gros, entre Dreux et Nonancourt.
Voilà,
c'est ça. À gauche de la Nationale 12, quand on va vers Saint-Rémy-sur-Avre.
D'accord.
Combien d'habitants à Boissy ?
Eh bien, 230 habitants.
Très bien. Alors, le nom de cette association, c'est Association Buxéenne Culture et Patrimoine, ce qui veut donc dire que votre champ d'activité est relativement large, puisque, en fait, vous occupez de culture et de patrimoine. Alors, déjà, effectivement, votre champ d'action, c'est quoi, en fait, réellement ?
Eh bien, comme nous le précisons dans nos statuts, nous travaillons à favoriser les échanges culturels, sportifs, sociaux, en vue de soutenir la conservation du patrimoine communal, en lien avec la municipalité, c'est-à-dire sans interférer dans le travail de l'équipe municipale. Et puis, comme je le disais lors d'une assemblée générale, notre patrimoine communal, je rappelais à nos adhérents, qu'il se compose, on pense tout de suite au patrimoine architectural, avec notre église Notre-Dame et notre chapelle. On a un patrimoine urbain avec nos pompes à eau qui donnent un cachet à nos rues. Et puis nous disposons aussi, nous pensons au patrimoine naturel avec nos bois et nos chemins propices à la promenade. Ce sont de futurs chantiers. On peut penser à un fléchage, se situer par rapport à Crécy-Couvet. Voilà, comme on voit dans beaucoup de régions.
Donc c'est un patrimoine assez large quand même, effectivement. Bon, d'une petite commune, vous dites, de 200 habitants. C'est une commune qui a des hameaux, des écarts, comme on dit, ou c'est regroupé ?
C'est regroupé.
C'est regroupé. Dans un seul bourg, pratiquement.
En termes de surface communale, on est sur 603 hectares.
D'accord.
Si ça parle.
Oui, on a du mal à évaluer. En fait. Pas toujours facile.
C'est sur la fiche technique. Bon, c'est pour,
Bien sûr. Et sinon, il n'y a pas de patrimoine, dirais-je, rural, comme des fermes, des choses de ce genre, qui auraient un intérêt éventuellement.
Si, lorsque nous avons la visite des gens de la DRAC, ils nous recommandent de préserver nos murs en bauge que l'on a.
Oui,
on a encore quelques longères.
Quelques bâtiments agricoles anciens, parfois qui sont intéressants. Et on fait la guerre aussi pour que précisément, on respecte un certain nombre de règles, qu'on ne mette pas du fibre au ciment, de la tôle ondulée sur certains toits.
Pratiquement l'ensemble de la commune est en périmètre protégé du fait
de la... Voilà, c'est ça. Il y a des matériaux à privilégier d'une certaine manière. Voilà,
Donc à partir de là...
Alors évidemment, nous ici, nous sommes dans l'émission Église ouverte. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à votre patrimoine religieux. Oui. Alors vous me dites que pour ce patrimoine religieux, vous avez déjà deux édifices. Il y a une église et une chapelle.
Voilà.
Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette chapelle ?
On en trouve trace dans des documents. On va chercher sur Wikipédia.
C'est peut-être pas. Mais elle existe toujours, cette chapelle dont vous parlez ?
Cette chapelle existe toujours.
Oui, oui. Hein ? Et alors, elle est située où par rapport à l'église ?
Plutôt en sortie, en direction des Scorpins, avec un cimetière qui est là. Il y avait auparavant un ancien cimetière proche de l'église, dans beaucoup de villages, dans le cœur de village. Mais il y avait un deuxième cimetière.
Très bien. En fin de compte, c'est peut-être une chapelle de cimetière, tout simplement. Les cimetières, souvent, avaient de grandes chapelles, parfois. Enfin, à Senonches, entre autres, très grandes dans le cimetière. Donc, c'était certainement une chapelle de cimetière, vraisemblablement. Et alors, cette chapelle, elle est entretenue actuellement?
Elle fait l'objet de l'attention de l'équipe municipale, et bien sûr, on ne la laisse pas tomber, parce que c'est un édifice qui a tout son charme, il y a une belle rosace, l'équipe municipale a refait la toiture, la toiture.
Non, parce que c'est vrai, on ne conserve pas énormément de chapelles de cimetières, il y en a un certain nombre, mais ce n'est pas si fréquent qu'on peut l'imaginer dans notre département, en effet.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Et alors, on va venir évidemment au morceau de choix qui nous intéresse spécialement aujourd'hui. Bien entendu, c'est votre église, l'église de Boissy-en-Drouais. Alors d'abord, cette église, elle a, comme toutes les églises de la chrétienté, un saint patron, une sainte patronne.
C'est la Vierge.
C'est la Vierge Marie, donc elle s'appelle Notre-Dame. C'est effectivement son titre et à la fois son vocable, effectivement. Alors, très rapidement, est-ce que vous pourriez nous rappeler, en gros, l'histoire, tout au moins ce qu'on peut en savoir de cette église, parce que souvent on a beaucoup de mal à retrouver l'histoire car il n'y a pratiquement aucun document écrit, j'imagine.
Je me référais à ce qu'on a trouvé comme note. On trouve trace de notre église de Boissy-en-Drouais au 9e siècle, et on parlait à l'époque de deux églises, mais qui furent toutes détruites lors des invasions des Normands. Ensuite, l'église Notre-Dame a été construite par... c'est à Guillaume de Champagne, évêque de Chartres, que nous devons la construction de l'église Notre-Dame au XIIe siècle, avec une destruction, d'après nos notes, entièrement détruite au XVIe et restaurée dans la même période.
C'est ça qui m'intrigue un petit peu, effectivement, parce que la plupart de nos églises, de Dreux ou d'ailleurs, en fait, sont des implantations très très anciennes, elles remontent au XIe, XIIe, la plupart d'entre elles, parfois même avant. Et la guerre de Cent Ans les a en grande partie ravagées. La plupart d'entre elles ont été incendiées, pillées, détruites. Et il a fallu s'atteler aux restaurations dès la fin du XVe, c'est-à-dire à la fin de la guerre de Cent Ans. Et c'est l'époque où on a reconstruit les églises, agrandi les églises. Et la plupart d'entre elles, celles que nous connaissons ici dans le secteur, eh bien, elles ont des parties XVe, XVIe, entre le gothique flamboyant et la Renaissance, si vous voulez. Alors, ce qui m'étonne un peu, évidemment, ici, c'est qu'on parle d'une destruction au XVIe, alors que la guerre de Cent Ans était terminée depuis déjà un certain temps, plusieurs décennies, et que, apparemment, ce n'est pas non plus les guerres de religion qui les ont détruites, ou les ont pillées, comme celle de Brouhé, par exemple. Apparemment, ce n'est pas le cas. On ne sait pas.
Aucune trace de ça, de cet événement. Non.
Parce que l'Église telle qu'elle se présente aujourd'hui, bon, on peut... stylistiquement la dater, compte tenu des éléments, c'est gothique flamboyant.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a des fenêtres avec des remplages flamboyants, comme on dit, c'est-à-dire ces baies qui ont des comme une forme de flamme, effectivement. Le portail, lui, est exceptionnel. Alors, lui, serait plutôt de facture Renaissance.
Oui, ça c'est... ça semble évident. Il y a de belles chimères qui sont là. Une belle coquille là-haut sur les
pilastres. L'arc en anse de panier de la façade est typique de la Renaissance, il n'y a aucun doute. Et puis aussi, bien entendu, la décoration des deux pilastres qui encadrent le portail avec ses chapiteaux, c'est typiquement le vocabulaire, évidemment, du style Renaissance, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, on est un peu étonné de la richesse d'un tel portail. On ne sait pas qui a pu commanditer
ce portail. Une question que l'on se pose, parce que dans la région, on a quand même affaire à un édifice d'un énorme volume. On est agréablement
Elle est assez vaste pour un petit village, quand même, bien sûr.
Et puis cette façade,
qui est très riche.
Est-ce qu'il y a un fait historique
Il y a
des hypothèses entre le fait d'être entre Crécy-Couvet et Annette. Est-ce qu'il y aurait eu un service rendu par un seigneur qui fait que...
Mais on ne sait pas si un seigneur du lieu aurait pu subventionner ou payer, si je puis dire, ce type de travaux.
Reste des secteurs de recherche pour nos adhérents ou...
Quand on la regarde, est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec d'autres portails qui seraient de même facture, de même style, de même époque
Nous ne sommes pas vraiment.
L'église de Saint-Rémy-sur-Avre, que vous connaissez certainement, possède aussi un très très beau portail d'entrée. Un petit peu similaire. On a l'impression qu'il y a quand même une sorte de cousinage entre ces deux portails.
C'est à regarder.
Parce que ça aurait pu être, effectivement, pourquoi pas, le même architecte, à Saint-Rémy.
Une frise dans le cintre, là, il y a beaucoup de petits personnages.
Voilà, assez riche aussi, effectivement. Lance de panier, pourquoi pas. Enfin, il y a peut-être une parenté. Voilà, donc on est au 16e. Ensuite, il va y avoir des restaurations au 19e, je pense.
Oui, on trouve trace, enfin, à travers les travaux là, qui ont été entamés, on trouve trace de différentes interventions. Mm-hmm. Le clocher a dû être rehaussé. On trouve trace de matériaux qui font un petit peu hurler maintenant parce qu'ils ne sont pas du tout dans les normes et tout ça. Je veux dire, c'était des réparations, mais à la fois des pièges, je pense aux problèmes d'humidité et tout qui ont généré beaucoup de dégâts à l'intérieur.
Mais vous avez eu un curé constructeur au 19e, il y a beaucoup d'églises qui ont eu des curés très entreprenants.
Nous l'ignorons,
vous l'ignorez. Parce que quand on entre dans l'église, effectivement, la première travée est étonnante, de style très néo-gothique, un peu troubadour, vous savez, ce qu'on faisait au 19e.
D'accord.
Donc je pense que c'est certainement un ajout. Alors on voit aussi, effectivement, dans les documents, que le lambris en bois, puisque toutes ces églises de campagne sont recouvertes toujours d'un lambris de bois, aurait été restauré en 1880. Je ne sais pas si vous avez trouvé
traces
de ça.
Oui.
Il y a une inscription.
Oui, Le Mône, monsieur.
Ah oui, d'accord, oui.
Ça vous parle.
Absolument. Qui indique en effet qu'il y a eu des...
Vers 1886 ou...
C'est ça, 1886, exactement. Et ça a été entièrement peint.
Pas au pochoir, oui.
Pas au pochoir, comme on faisait à l'époque.
Et il y a aussi également des peintures en façade, enfin au-dessus. Enfin, je vois à peu près à 2 mètres. Il y a plein de motifs.
Mais sur les murs, là.
Les murs.
Et dans le chœur, essentiellement.
Oui.
D'accord.
Et partout aussi.
Ouais. Donc c'est une église qui a bénéficié quand même d'une importante restauration au cours du 19e.
Oui.
Ça a laissé des traces tout à fait tangibles. Alors nous avons parlé beaucoup de l'architecture de cette église principalement. Cette église possède aussi, j'imagine, un mobilier. Est-ce qu'il est intéressant? Il est de qualité, ce mobilier?
Il y a un magnifique retable avec un beau tableau au centre qui mériterait quelques attentions. Mais bon, c'est comme tout, le nerf de la guerre, l'argent, ne vient pas comme ça.
Ben oui.
On a une magnifique chaire avec un banc d'œuvre qui lui fait face, c'est l'implantation classique. Tout ça, c'est en restauration, donc ouais. On devrait avoir une vision magnifique de ce bois retouché, ciré, ouais. Qui va retrouver.
Alors la chaire, effectivement, je la connais, je l'ai vue, elle est quand même assez monumentale, assez exceptionnelle, cette chaire, dans ouais. Une petite église comme ça, c'est assez impressionnant.
Le volume intérieur, une fois qu'on rentre, le volume ouais. Surprend tous nos visiteurs.
Mais cette chaire est en bois
Il y a bois et plâtre.
Ah oui,
bois et plâtre.
Parce qu'il y a des motifs en plâtre, apparemment, ouais, en particulier.
Des angelots. Ouais. Qui étaient bien mal en point, mais là qui
ont été consolidés.
Qui ont été complètement restaurés et qui sont magnifiques.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait les symboles des quatre évangélistes, apparemment. Hein,
oui,
sur,
vous l'aviez.
Sur les côtés de cette chaire. Assez monumentale et assez impressionnante, oui. Effectivement. Hein. Voilà. Donc, cette église, alors, elle est inscrite à l'inventaire, c'est ça,
oui,
exactement.
Pour son porche, oui.
Uniquement pour le porche. Hein. Et c'est en quelle année qu'elle a été inscrite? En 1927 peut-être?
1927.
Non, j'ai vu ça quelque part,
oui,
c'est ça.
J'avais...
Donc il y a déjà pas mal d'années. C'est une inscription assez ancienne qui prouve quand même le grand intérêt de particulier de ce portail. Voilà. Donc une inscription à l'inventaire. Voilà. Mais en revanche, le mobilier n'est pas protégé du tout.
Du tout, non.
Oui.
Non. Il y a pas de...
Il rejette là actuellement.
Non, mais ça, de par les, comment dirais-je, les tranches de restauration qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation, le mobilier va, quelque part, a fait l'objet de retouches, a été bichonné, tout ça, on va voir quelque chose.
D'accord. Alors là, vous abordez ce qui nous intéresse maintenant, vous avez commencé, c'est une excellente transition, vous savez qu'à la radio, il faut toujours faire des bonnes transitions, là, vous êtes effectivement excellent dans ce domaine, vous nous parlez de restauration.
Oui.
Alors, il y a... Bon, une grosse campagne de restauration. Elle a commencé quand, cette campagne?
Eh bien, on a... Monsieur le maire et toute l'équipe a travaillé sur le montage financier depuis... l'association a vu le jour en 2014. Ça a bien occupé les cinq premières... Oui, 2011, ils commençaient à y réfléchir, sérieusement.
Oui, bien sûr.
Et quand on a été sûr qu'allait se lancer la première tranche... Parce que là, on était quand même sur des montants qui, tout cumulé, on est sur entre 800 et 900 000.
C'est considérable. Pour une petite commune d'un peu plus de 200 habitants, c'est une charge énorme, évidemment.
Oui. Non,
c'est sûr.
C'est un chantier, là, il faut tirer les... Il faut remercier Monsieur le maire.
Ah oui, il faut rendre hommage, effectivement, à des communes comme la vôtre, qui engagent tant de frais, alors qu'elles ont très, très peu de moyens dans la restauration de leur église. Ça, évidemment, il y a
donc,
un coup de chapeau à leur donner.
Et ça a servi, si vous voulez, quand on a lancé l'idée à quelques-uns de créer une association pour, justement, accompagner et pouvoir travailler sur les petits points qui n'auraient pas été pris en compte. Et puis même, on peut pérenniser cette vision-là, puis se dire... Les travaux terminés, il nous appartiendra de travailler sur le chemin de croix comme on fait aujourd'hui, sur d'autres éléments du patrimoine.
Oui. Alors vous nous dites bien, et ça c'est très important, qu'en fait vous êtes un partenaire de la mairie, de la municipalité, mairie bien entendu qui est propriétaire de cette église, comme toutes les églises de France, hors les cathédrales bien sûr. Donc vous êtes un partenaire, vous n'êtes pas une association comme il en existe un certain nombre, de défense de l'église, comme ça a été le cas de Rouvres. J'ai reçu il n'y a pas très très longtemps le président de l'association de sauvegarde de l'église de Rouvres. Pour le coup, c'était leur domaine propre, c'était la restauration de l'église. Vous, ce n'est pas votre cas. Vous êtes une association patrimoniale, culturelle en quelque sorte, pas spécifiquement sur l'église, mais sur l'église, vous accompagnez en quelque sorte la mairie. Alors, vous l'accompagnez aussi financièrement?
Oui, nous avons pu, pour l'inauguration de la première tranche, nous avons pu financer le nouveau coq qui a été mis au mois de mai 2016, qui a été béni par l'abbé Popo. Ça a été l'occasion de faire de faire revivre la petite chapelle du cimetière.
Ah oui.
Avec cette, on pouvait plus être dans l'église, donc il fallait réunir les gens. Ça a permis de faire revivre cette chapelle.
Et là, le coq, la fabrication. Et le montage du coq,
financé par l'association.
En charge par l'association.
Donc nous avions là, on arrivait, on avait un an et demi d'existence. Donc le temps
Ça coûte combien en gros fabriquer le coq et le poser? Parce que rien que la pose, je crois que ça
nous avons remis à la commune un chèque de 500 euros.
Oui. Voilà. Oui, oui. Mais c'est une participation, là aussi.
C'est le financement.
C'est l'intégralité de cela, effectivement. Et sinon, vous avez fait d'autres opérations plus ponctuelles, non, les vitraux, par exemple.
Ah non, les vitraux, c'était dans la définition du chantier financé par la commune.
Oui, bien sûr.
Vous écoutez Radio Grand Ciel sur la bande FM et sur Internet, en direct ou en podcast, grâce à notre site www.radiograndciel.fr.
Alors, bon, on parle de travaux, on parle de tranches. Si j'ai bien compris, donc c'est un programme qui est pluriannuel.
Oui.
Et alors, une première tranche est déjà désormais réalisée.
Oui, ça a été...
Ça a été inauguré quand
2016.
Donc c'est récent.
C'est récent.
À peine 2 ans.
Oui.
À peu près.
Oui.
Et récent. Là, cette première tranche a porté sur...
Ça a
quelle partie
porté sur la couverture.
Oui, donc
l'intégralité
on a
de la couverture.
Dans l'église déjà, c'était
le clocher.
Voilà, oui.
La façade ouest, enfin celle qui est là avec ce fameux porche classé.
Oui. Hein,
celle que l'on voit là. L'intégration du carillon, tout ça. Les vitraux qui sont sur cette façade. La sacristie, qui a été refaçonnée au niveau toiture.
Oui.
Ça représente...
Donc ça, c'est première tranche.
Ça, c'est la première tranche.
Alors, maintenant, vous êtes engagé dans une seconde tranche...
Qui vise plus l'intérieur, avec retouche des barres d'eau. Le sol qui avait pris l'humidité, donc, a bénéficié... On a travaillé sur un drainage à l'extérieur, donc forcément un drainage de façon à capter toutes les eaux de pluie, et ne pas revivre le salpêtre et tout ça. Après... On retravaille donc, là il reste tout le sol à refaire, en respectant les carrelages qui existaient. Donc on a trouvé avec l'architecte, enfin c'est surtout l'architecte qui travaille, qui nous conseille dans ce domaine-là. Donc des tomates qui vont parfaitement s'harmoniser.
Oui, parce que toutes les églises de campagne étaient en général pavées en tomates, sauf le cœur des églises.
Le cœur,
parfois,
les centrales, la nef,
de lait blanche, ça arrivait souvent
des boucards,
à Crécy-Couvée.
Les vitraux ont été retouchés par la... on découvre des artisans qui ont les doigts en or. Hein. C'est la maison Lorrain de Chartres.
Oui, bien entendu. C'est Lorrain qui avait créé les vitraux du 19e, non ? Parce que Lorrain, on voit des vitraux de Lorrain depuis le 19e siècle. À la fin du 19e, on voit dans beaucoup d'églises du diocèse de Chartres
pas vous dire,
des vitraux signés Lorrain. Il y a eu Loire aussi, évidemment.
Bien sûr.
Chez nous, Eugène Moulin, 19e, effectivement. Il y avait des maîtres verriers assez nombreux, d'ailleurs, dans le département. Et c'est donc encore un Chartrain qui a restauré, ce qui est très bien, les vitraux qu'ils ont du 19e, j'imagine, doivent dater de l'époque où on a, repeint le lambris, en gros. C'est à peu près dans les années 1880-85. Voilà. Alors donc cette seconde tranche, elle est actuellement en activité ou elle est pas encore achevée?
Alors on arrive, il y aura encore aussi tous les autres crépis. Donc puisqu'on a fait la façade ouest, il reste encore tous les autres murs.
Et ça c'est la deuxième.
C'est la deuxième tranche.
Il
n'y
aura pas
de
troisième.
Non.
Non. Normalement la deuxième c'est la dernière. Donc elle est bien avancée cette deuxième tranche.
Oui.
Et vous pensez
intérieurement on va déjà, on devrait attaquer la dépose des échafaudages. Donc on aura une vision. Et des vitraux, et de toutes les retouches des bandeaux peints et tout ça.
Oui, bien sûr.
On pourra davantage...
Et vous avez une idée de la date fin de ces travaux, non ?
Monsieur le maire voudrait bien que ça se fasse... que ça soit fait pour la journée du patrimoine, déjà.
Cette année ?
Oui.
Ah, c'est très proche.
Oui. Non,
ah oui, septembre 2018.
Peut-être.
Ah, je pensais qu'il y avait encore beaucoup de travail.
Le travail, il faudrait que tout soit terminé pour juillet.
C'est très bien, ça va très vite. Et alors, vous avez un autre projet, je crois, dont on a parlé ensemble, c'est la réalisation d'un chemin de croix. Alors, vous pourriez un peu nous dire quels sont vos projets dans ce domaine-là ?
Eh bien, donc... Après le coq, on s'est aperçu que cette église était dotée d'un chemin de croix qui est actuellement stocké à la chapelle. Notre idée première, c'était de partir sur une restauration, en sachant que ce chemin de croix, il est fait, comment dirais-je, de panneaux de plâtre, avec un peu de relief.
Oui, c'est des panneaux saint-sulpiciens, comme on dit, c'est en plâtre peint.
Voilà,
c'est
ça. Et sur les 14...
Les moulés, production
un
industrielle.
Un peu tristouné, dans des tons peu éteints, plomb.
C'est pas des œuvres d'art, quoi, si je comprends bien, effectivement.
Voilà.
Enfin, rassurez-vous, la plupart des églises possèdent ce type de chemin de croix. Il est rare qu'il soit très artistique, effectivement.
Mais notre idée était quand même de... sur les 14 stations, il y en a que 5-6 qui sont intactes. Donc, on s'est mis en tête de rechercher dans les archives diocésaines des traces de
donc
commandes.
Ça, c'est un premier scénario possible, la restauration et le complément aussi de l'actuel chemin de croix. Parce que, si j'ai bien compris, il est incomplet, donc il faudrait le compléter.
Voilà.
Complément et restauration. Mais et il y a un autre scénario.
Contact pris aussi avec l'accompagnement de la DRAC.
Madame Audebrand.
On a abandonné la première piste parce que ça serait tout à fait utopique d'imaginer retrouver le moule et ça amènerait un coût exorbitant. Deuxième hypothèse, partir dans une création
tout à fait contemporaine
et tout à fait admissible par les autorités religieuses, puisque
je sais que vous avez effectivement demandé l'avis à la commission diocésaine d'art sacré, dont d'ailleurs c'est le rôle évidemment, de donner son avis sur l'aménagement liturgique des églises.
Pour être franc, j'ignorais son existence.
Mais chaque diocèse a sa commission diocésaine d'art sacré, nôtre, le diocèse de Chartres comme les autres, effectivement. Donc elle s'est rendue sur place.
L'intérêt d'être dans cette association. C'est qu'on est, va avec notre bonne volonté, mais on a beaucoup de lacunes et forcément on découvre.
C'est bien, on est là pour vous aider, c'est
sûr. On s'enrichit.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà, nous sommes dans une phase de prospection.
C'est ça, et de réflexion. Sachant que l'avis ne vous a pas encore été donné officiellement, l'avis de la commission.
Non, parce que actuellement, le gros souci, autant on peut tomber d'accord sur une approche artistique.
Oui.
La réalité financière fait que
ça c'est autre chose effectivement parce que ça a un coût parce que les artistes évidemment il faut c'est leur métier faut les payer quoi évidemment bien sûr.
Donc peut-être et puis peut-être que nous sommes un peu naïfs on s'adresse à une artiste qui a une certaine cote une certaine valeur
et là la prise en charge financière ce serait l'association
l'association.
Le coup c'est pas la mairie alors
nous sommes association reconnue d'intérêt général depuis cette année. Et à ce titre, nous sommes en mesure de délivrer des reçus fiscaux. Donc, nous misons sur le mécénat et des dons spontanés en vue de financer notre projet de chemin de croix.
Mais alors, puisque l'Église est inscrite, bien entendu, vous faites des montages financiers, enfin la commune fait des montages financiers, des vrais patchwork évidemment, la DRAC, on prend une partie quand même à sa charge, puisque c'est inscrit à l'inventaire.
Dans la partie
architecture,
la partie qu'a menée Monsieur le maire, la DRAC participe.
À quel niveau 20%, 20, 25, 30 à peu près, c'est ça.
Dans
le département aussi, la région.
Il
y a pas mal d'intervenants, parce que c'est compliqué à monter.
Le pèlerin,
des fois on a même des sponsors privés, ça arrive. Fait que la mère heureux, n'est-ce pas, ont des mécènes sur leur territoire, mais malheureusement, c'est pas le cas de toutes les communes.
On le voit dans la presse, on se dit pourquoi.
Alors on va en venir à la question qui fâche, c'est la question qui nous intéresse, nous, Association Église Ouverte Eure-et-Loir. Est-ce que, effectivement, cette église sera ouverte? Beaucoup de restauration, beaucoup de travaux, beaucoup d'argent. Mérite d'être vu, admiré. Est-ce qu'elle sera ouverte?
C'est notre préoccupation aussi de mettre en valeur tout ce patrimoine buxéen. Mmh. Et effectivement, autant nous sommes heureux d'accueillir les visiteurs à l'occasion des Journées du patrimoine. Et ça va de soi, quelque part, c'est notre rôle que d'accueillir et de montrer, mettre en valeur tout ce bel édifice et son contenu. Et nous souhaiterions effectivement que dans l'année, cette église vive, quoi qu'elle fasse, qu'elle serve d'étape aux promeneurs, aux randonneurs, qu'elle revive à travers ses offices religieux et qu'elle serve aussi occasionnellement pour quelques manifestations culturelles, qu'elles soient musicales ou d'exposition.
Donc l'aspect à la fois cultuel et culturel, c'est voilà. Ce qu'on a toujours défendu, ça va de pair évidemment. Oui. Mais vous êtes déjà ouvert, je pense, enfin l'église est déjà ouverte pour les journées du patrimoine.
Ah oui.
Ça c'est une chose ça, c'est acquise. Une
voilà.
Vous me
voilà,
direz, c'est deux jours par an, mais bon, c'est déjà ça, c'est un commencement.
Non, et quelque part, c'est une façon de... comment dirais-je, de valoriser Boissy, enfin de faire connaître Boissy au sein de l'agglo.
Bah oui, absolument.
C'est une charmante petite étape. D'autant
plus que c'est un très beau patrimoine, tout à fait digne d'intérêt.
Donc nous travaillons,
Les amateurs et les autres.
Sans dénaturer ces manifestations que sont les journées du patrimoine. Oui. Nous, on travaille sur l'accueil du public pour glaner quelques euros en vue d'alimenter notre cagnotte.
Bon, écoutez, c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter. On vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nos micros. On vous félicite pour tout ce que vous faites et aussi un coup de chapeau à la mairie de Boissy-en-Douai, qui fait beaucoup pour ce patrimoine religieux tout à fait intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt.